France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Éditer, informer, éclairer. La documentation française, histoire d'un service public. La documentation française est née en 1945, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Mais en réalité, elle est déjà imaginée pendant la guerre, avec la volonté de fournir des informations et des analyses sûres, solides, accessibles au plus grand nombre, et affranchies de tout tripatouillage pour manipuler les esprits, donner les armes de compréhension du monde. Voilà qui était très pertinent en 1945, et qui l'est drôlement aujourd'hui encore.
La documentation française naquit aux heures exaltantes de la France libre.
Il informe, il éduque, un certain nombre de ses publications intéressent directement le ministère de l'Éducation nationale.
Son autre vocation est l'information et la documentation du public.
Dans un esprit de stricte objectivité scientifique.
Documentaliste et puis instruction civique et puis maison de la culture tout à la fois, mais ça me plaît assez.
La documentation française que nous allons évoquer aujourd'hui par son histoire, par ses missions. Avec vous, Sabine Janssen, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne, co-rédactrice en chef de questions internationales. Vous êtes professeure des universités au Conservatoire national des arts et métiers. C'est à Paris. Questions internationales, c'est une des publications de la documentation française, c'est ça?
Absolument, depuis 2003. C'est le dernier né, je dirais, de la documentation française. C'est le petit bébé qui a maintenant quand même fêté ses 20 ans.
C'est pas mal. Voilà. Bon anniversaire également. Lucille Jos, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes administratrice de l'État, sous-directrice des publics et des produits au sein de la direction de l'information légale et administrative. Qu'est-ce que c'est que cette information légale et administrative? C'est quoi cette direction?
Alors, la direction est peu connue, mais si je vous dis Légifrance,
j'imagine que ça fait un peu plus
sens pour vous. Et si je vous dis servicepublic.gouv.fr, puisque nous avons changé d'URL en octobre, peut-être que ça vous dit également quelque chose. Donc, c'est un site d'information administrative grand public qui a également fêté ses 25 ans et ses 675 millions de visites au cours de l'année 2024.
Bah, félicitations et bon anniversaire également avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire. Julien Vinoc, bonjour.
Bonjour.
Un lien de famille?
Un lien, oui.
Proche.
Proche.
Vous êtes responsable d'édition des cahiers français. Alors, les cahiers français, là, c'est vraiment lié à l'histoire de la documentation française.
Absolument.
Depuis les origines.
Depuis les origines, puisque le premier numéro date de février 45. Donc, c'est l'une des premières publications qui a été créée avant le décret qui officialise l'existence de la documentation française, qui est d'octobre 45. Donc, c'est vraiment une des plus vieilles revues, un des plus vieux titres de la documentation française.
Février 1945, oui. Cela signifie que c'est avant la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe.
Tout à fait, absolument. Déjà, dès la fin de 1944, Jean-Louis Crémieux-Briac, dont on a entendu quelques voix, quelques échos au début de l'émission, a été chargé de créer, avec Marcel Koch, cette direction tout à fait particulière qui s'appelait à l'époque la direction de la documentation et de l'information et qui va devenir la documentation française par la suite. Et c'est cette création originale qui dont on va parler.
Vous êtes justement le biographe de Jean-Louis Crémieux-Briac, Servir la France, servir l'État, c'est publié par
La documentation française.
Évidemment. Qui est ce personnage, Jean-Louis Crémieux-Briac? C'est vrai que c'est un personnage que l'on croise. Hein, quand on traverse l'histoire de la deuxième moitié du XXe siècle, c'est un nom que l'on ne peut pas louper.
Ben, c'est un personnage qui, comme le disait Pierre Nora, a eu trois vies. D'abord, il a été un membre de la France libre, très jeune, dans des conditions très particulières, parce qu'il a été deux fois fait prisonnier, d'abord par les Allemands. Il s'est évadé, et mal manque de bol, il s'est évadé par l'Est, il est tombé en Lituanie. Donc les Soviétiques l'ont fait prisonnier à leur tour, puis il a été libéré, et il s'est retrouvé à Londres en septembre 41, où il a eu un rôle non négligeable, puisqu'il Il avait notamment la charge de la diffusion clandestine. C'est-à-dire que chaque mois, il constituait des documents destinés au réseau de résistance qui était largué par parachute à chaque lunaison. Et dans cette documentation, il y avait tout un ensemble de renseignements sur la situation de la France, mais aussi les pays alliés. Et c'est ce qui va évidemment servir au réseau de résistance. Et puis, il a été aussi le cofondateur, donc, comme on va le voir, de la documentation française, puisqu'il a été chargé à la Libération de réunir, je dirais, son service de documentation avec celui de Marcel Koch. Marcel Koch, qui est qui est le directeur, le premier directeur de la documentation française, qui lui avait un petit peu le même rôle, mais à Alger. À partir de 43, il est chargé, lui, d'informer non pas les réseaux de résistance, mais tout simplement de trouver des sources d'informations fiables, de rédiger des notes à destination des dirigeants de la France combattante, de Gaulle et son entourage. Parce qu'à l'époque, de Gaulle se méfie des agences, des sources étrangères, il veut avoir ses sources à lui, sûr, et donc Marcel Koch, avec une petite équipe, va former ses analystes, rédacteurs, qui plus tard, pour certains, se retrouveront au sein de la documentation française.
Donc aux origines de la documentation française, exactement. Il y a le contexte de guerre, bien sûr, il y a la résistance et il y a ce personnage, Jean-Louis Crémieux-Briac.
Je me suis évadé du camp de Hammerstein en Poméranie le 4 janvier 1941 avec un camarade aspirant. Le problème pour nous était d'abord de sortir du camp, de trouver des vêtements civils. Ça a été une longue patience pendant des semaines, pendant des mois. Nous avons essayé pièce à pièce de constituer cette panoplie civile, de teindre des vêtements, de les confectionner sans être vus par les Allemands. Et nous avons réussi à sortir du camp à la tombée du soir en présentant un faux laissez-passer que nous avions fabriqué grâce à des Polonais et à un dessinateur français. Le dernier souvenir que nous gardions de cette aventure, c'est au milieu de la mer Blanche, au nord d'Archangelsk, dans un brouillard blanc, notre approche du convoi anglo-canadien. Et nous avons vu brusquement ce premier convoi qui venait ravitailler l'URSS attaqué, ce premier convoi qui tout d'un coup s'est mis à chanter la Marseillaise au milieu de la mer Blanche.
Nous étions en 1961 quand Jean-Louis Crémieux-Briac évoquait son évasion 20 ans plus tôt. Avec ici Sabine Janssen, toute l'importance qu'il y a d'insister sur le contexte de la naissance de la documentation française. On l'entend ici avec l'évocation de la Marseillaise, l'attachement à la France et puis l'attachement à la liberté aussi.
Oui, alors justement, je voulais ajouter à ce que vient de dire Julien que Jean-Louis Crémieux-Briac, pour les historiens, c'est aussi l'historien de la France libre. Il a fait une somme sur la France libre qui est indispensable à tous ceux qui s'intéressent à cette période. Et avec, je dirais, ce petit plus de la personne qui a connu de l'intérieur ce qu'était la France libre, les différentes personnalités, parce qu'au fond, la France libre, c'est d'abord une espèce de coagulation autour de Gaulle, de personnalités, il faut dire, assez hétéroclites, mais qui ont toutes un peu une âme d'aventurier. Et on le voit bien avec le parcours de Jean-Louis Crémieux-Briac. Et c'est vrai qu'il va être, au fond, l'homme idoine pour à la fois raconter cette épopée de la France libre, mais le faire vraiment, il l'a fait vraiment en historien, hein, appuyé sur des sources avec des documents. Ouais. Et c'est aussi tout à fait cohérent avec ce qu'il a voulu faire de la documentation française.
Oui, tout à fait.
Et ici, dans l'idée d'aventure, l'idée de mettre en place cette documentation française, en soi, c'est aussi une aventure. Nous avons un autre personnage qui a été évoqué quand même, hein, c'est Marcel Koch. Marcel Koch, donc lui qui était à Alger. Ce lien d'ailleurs entre les deux est très intéressant. Hein. À Londres, Jean-Louis Crémieux-Briac, et à Alger, Marcel Koch. Ce sont des gens du même univers, c'est-à-dire ils ont la même vision, parce que au moment de s'entendre pour créer quelque chose, vaut mieux avoir des vues communes.
Oui, ils ont des vues communes. Mais chacun, je dirais, a une personnalité, une expérience qui leur est propre. Dans le cas de Crémieux-Briac, c'est l'expérience de l'Angleterre, de Londres. Il va être très sensible à ce que les Anglais ont fait dès les années 30, c'est-à-dire créer un service d'information public destiné aux citoyens et qui a vraiment pour ambition de sortir de la propagande, de donner les moyens aux citoyens anglais de s'informer de façon neutre, peut-être le mot est excessif, en tout cas impartial, aussi impartial que possible. Et Marcel Koch, c'est un petit peu la même chose, sauf que alors lui, il a avant-guerre été dans une sorte de think tank à Strasbourg. Il avait pour tâche, je dirais, d'éclairer un petit peu les Européens sur la nature du régime nazi. Bon. On peut dire que sa mission est complètement réussie, mais enfin, il était très sensibilisé à la réalité de ce qu'était le nazisme et le régime allemand, alors qu'à l'époque, finalement, tout le monde n'était pas conscient de tout cela, et Crémy Briac lui-même a pu constater combien la presse était assez complaisante, en tous les cas taisait un certain nombre de choses sur la réalité des régimes fascistes et nazis, et lui va avoir à cœur vraiment, je dirais, fort de son expérience à Londres et au sein de la France libre, et en tant qu'observateur de la vie, je dirais, de la nation britannique, de servir, enfin de créer vraiment une instance pour que les citoyens puissent s'informer de manière aussi impartiale que possible, ne pas arrêter le bourrage de crâne finalement, c'était ça.
Lucile Josse, il est ici un enjeu démocratique. Diffuser l'information, mais l'information vérifiée, solide, au plus grand nombre, de façon à ce que les gens puissent se faire leur avis. Et dans une démocratie, pouvoir constituer sa propre opinion, c'est ça qui fait fonctionner tout simplement les institutions et la vie en société.
Tout à fait. Alors d'abord, tout ça me fait penser au fait que quand j'ai passé l'ENA, quand elle existait encore, ce qui fait de moi un objet historique, j'ai eu comme épreuve de culture générale, la résistance est-elle encore un idéal du 21e siècle ? Et j'y pense souvent depuis que j'ai en charge des équipes au sein desquelles on trouve notamment ceux qui font vivre la documentation française encore aujourd'hui. Alors oui, notre mission, depuis 2010, la direction de l'information légale et administrative est issue de la fusion de la direction des journaux officiels et de la direction de la documentation française. Donc on a réuni dans une seule direction d'administration centrale l'ensemble des services qui ont en charge la diffusion de l'information, donc à la fois le droit et aussi une information qui permet aux citoyens de se forger une opinion éclairée sur les différents sujets.
Avec ici tous ces différents sujets, ils sont nombreux. Moi, je voudrais juste une petite précision, Lucile Josse, parce que j'entends documentation française qui édite des choses. Nous avons des imprimeries nationales qui existent dans notre histoire. Nous avons un journal officiel. Qui fait quoi ? Alors, attention, il y a le qui fait quoi avant, le qui fait quoi aujourd'hui, parce que les choses ont dû évoluer.
Alors, les choses ont effectivement beaucoup évolué. Peut-être que pour vous répondre, on peut reprendre une circulaire de Lionel Jospin en 1998 qui définit les missions des éditeurs des administrations publiques et des services de l'État. Il rappelle qu'il y a effectivement institutionnellement trois éditeurs publics, les éditions des journaux officiels, la documentation française et l'imprimerie nationale. Mais il indique aussi que dans le cadre de leur mission de service public, d'autres services peuvent éditer des ouvrages, notamment des ouvrages à caractère scientifique ou culturel. C'est le cas notamment des éditions du CNRS ou des éditions de la Réunion des musées nationaux. Donc ça, c'était ce qui se passait en 1998. Aujourd'hui, la révolution d'Internet a quand même beaucoup changé les choses, puisque depuis le début des années 2000, on met les textes en ligne sur Internet. Donc c'était aussi Lionel Jospin qui, à Hourtin, avait dit « Maintenant, les services publics sont sur Internet ». On arrête le Minitel. D'ailleurs, la documentation française avait été pionnière du Minitel avec 3615 Vaudrois. N'essayez plus de le consulter, mais en tout cas, je crois que c'était un service assez remarquable dans son genre. Et donc, voilà, aujourd'hui, on n'imprime plus le journal officiel depuis 2015, plus du tout. Mais il est en ligne tous les jours, du mardi au dimanche. Et les textes de loi consolidés sont disponibles sur Légifrance. L'imprimerie nationale, maintenant, c'est IN Group. Et ça imprime principalement les cartes d'identité et les passeport. Et par ailleurs, on a maintenu une mission d'éditeur public pour CNRS Édition, par exemple, qui continue à éditer notamment la documentation francique, la documentation photographique. On s'embrouille un petit peu avec tous ces termes. Et nous continuons notre mission, mais qui est peut-être plus restreinte. Voilà, je ne sais pas si on peut...
Que l'émission, c'est vrai que c'est important dans cette réflexion qu'on a sur l'histoire de quelque chose que l'on connaît tous et tous. Hein, faut le dire, on l'entend, hein, imprimerie nationale, journal officiel, documentation française, mais là, avec vous, on y voit un peu plus clair.
Et puis, du coup, cette mission d'éditeur public, je pense qu'un éditeur public, c'est trois choses. C'est d'abord un éditeur. Donc qui a les mêmes exigences professionnelles qu'un éditeur privé. Mais ensuite, c'est un éditeur qui poursuit l'intérêt général et qui exerce une mission avec les contraintes inhérentes au service public. Donc parfois l'urgence, les règles de la comptabilité budgétaire. Et puis surtout, c'est un éditeur qui ne va pas faire exactement la même chose que le secteur privé, puisqu'on répond aux insuffisances du marché. Donc c'était le cas dans les années 50 ou 60, bon, Julien connaît ça par cœur, mais il y avait clairement à cette époque-là une défaillance dans la constitution de connaissances sur un certain nombre de choses, notamment la connaissance des pays de l'Est, des pays d'Afrique, des pays qui venaient d'être décolonisés, etc. Donc la documentation française répondait à cette insuffisance du marché.
Avec deux personnages à la naissance de la documentation française, Jean-Louis Crémieux-Briac et Marcel Koch.
Nous fonctionnons un peu comme un journal, c'est-à-dire que nous avons la prétention, qui est d'ailleurs très difficile à satisfaire, d'avoir, dans une certaine mesure, la rapidité d'un journal et en même temps l'exactitude scientifique de thèses universitaires. Et ceci est, je crois, très important et a été rendu possible par le fait que, dès 1947, la direction de la documentation a été rattachée au secrétariat général du gouvernement qui n'a eu en 20 ans que 3 titulaires, ce qui a donné, dès l'origine, une grande stabilité de conception et de travail et qui a permis à la direction de la documentation de réaliser son œuvre dans un esprit de stricte objectivité scientifique.
Marcel Koch, en 1967. Julien Vinocq, il y a quelque chose qu'il faut m'expliquer malgré tout, c'est que dans la volonté de diffuser des informations pour éclairer le plus grand nombre, on se dit, mais puisque c'est le pouvoir qui est moteur de cette diffusion, dans quelle mesure les informations ne sont pas un peu orientées?
Absolument. Alors, ça va être un problème, je dirais, à la naissance de la documentation française, qui est évidemment celui d'asseoir une crédibilité et d'apparaître comme étant une instance qui est dégagée des pressions politiques. Et au tout début de la documentation française, entre 1945 et 1947, il va y avoir une certaine ambiguïté, puisque avant que la documentation française ne soit rattachée au secrétariat général du gouvernement, il va dépendre du ministère de l'Information.
Aïe.
Lequel ministère de l'Information va charger la documentation française d'une mission d'information, on va dire de propagande, destinée aux Américains qui étaient en France, aux troupes américaines qui étaient en France, mission d'information qui avait vocation à présenter l'œuvre de la résistance, à présenter les premiers résultats de la reconstruction. Bref, une mission qui clairement était en contradiction avec celle de la documentation française. Heureusement, les choses vont être clarifiées. En 1947, le ministère de l'Information est supprimé, provisoirement parce qu'il va revenir plus tard. Mais ce qui est important, c'est que statutairement, la documentation française va être rattachée au secrétariat général du gouvernement, lequel va jouer vraiment un rôle de paravent. Il va mettre à l'abri la pression politique, la documentation française. Alors, un abri qui va être, on va dire, très largement excellent, mais parfois une petite perméabilité. Bon, typiquement, lors du gouvernement Laniel, 53-54, Crémieux-Briac avait demandé une étude sur l'alcoolisme en France, laquelle étude préconisait de mettre fin au privilège des bouilleurs de cru. Et donc, ça n'a pas beaucoup plu, et l'étude a été mise sous le boisseau. Bon, l'année plus tard, Mendès France arrive au pouvoir, il va mettre fin au privilège des bouilleurs de cru, privilège des bouilleurs de cru, mais en tout cas, à cette époque, il y avait comme ça quelques sujets un peu sensibles qui n'apparaissaient pas tellement, si ce n'est au travers des revues de presse, parce que là, pour le coup, bon, on était bien sûr obligés de rassembler l'ensemble des journaux qui se faisaient l'écho de telle ou telle question, mais il n'y avait pas vraiment beaucoup de publications sur un certain nombre de sujets. Ça va être le cas, notamment, de la guerre d'Algérie. Pendant la guerre d'Algérie, on va pas faire de zèle et on va pas faire beaucoup d'études appuyées sur le sujet, et puis la politique atomique de la France, ça sera pas un veto, ça sera pas un tabou, mais on va pas en parler énormément non plus.
Sabine Janssen.
Oui, c'est intéressant parce que ça nous conduit à réfléchir justement à ce que c'est que le service public en France et en quoi c'est différent et c'est perçu différemment à l'étranger. Au moment de la création, je fais le lien avec autre chose, mais qui va dans la même ligne de réflexion. Lorsque l'Institut français des relations internationales a été créé dans les années 70, un premier think tank de relations internationales, eh bien, les dirigeants sont allés voir les Américains pour demander de l'argent. Et en fait, les Américains, les fondations américaines, sachant que l'IFRI, Association Loi 1901, recevait des subventions de l'État, du ministère de l'Éducation nationale, ne voulaient pas donner d'argent en considérant que c'était très suspect, parce que ça signifiait que l'Institut français des relations internationales était dans la main des pouvoirs publics. Donc, c'est quelque chose qui vraiment différencie fondamentalement la France, je crois, d'un certain nombre d'autres pays.
Oui, avec ici le contexte qui est important. Lucile Josse, on peut le rappeler quand même, parce que vous avez évoqué aujourd'hui l'accès très facilité à tous ces documents, Légifrance par exemple. Mais c'est exceptionnel d'avoir, pour un texte de loi, historien, historienne s'en régale, toutes les versions avec tous les changements. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin de consulter tous les journaux officiels sur un temps très long. On peut revenir à la première loi, parfois, de la Révolution, et puis on voit tous les changements à travers le temps. C'est formidable. Mais là, ce que nous évoquons dans ces années 1940, 1950 et par la suite, jusqu'à récemment, c'était la difficulté d'avoir accès à l'information.
Alors oui, pour répondre à la première partie de votre intervention, l'histoire de l'administration depuis les années 1970 et le projet de nouvelle société de Jacques Chaban-Delmas, c'est globalement l'histoire d'une ouverture de plus en plus approfondie des productions de l'administration au public. On peut citer la création de la CADA dans les années 70, commission d'accès aux documents administratifs, commission dont la création avait d'ailleurs fait l'objet d'un lobby assez intense de la part des cadres de la documentation française, et notamment de l'un de mes lointains prédécesseurs, donc le sous-directeur de la documentation, qui raconte dans un ouvrage avec émotion d'avoir assisté à la première séance de la CADA. Et cette ouverture des documents publics trouve une prolongation avec toute la politique d'open data aujourd'hui, donc la loi pour une république numérique en 2016, le fait qu'aujourd'hui les administrations publient très très largement leurs jeux de données sur opendata.gouv.fr, sur data.gouv.fr, c'est vraiment un mouvement très marquant pour un fonctionnaire et pour tous les agents publics, cette ouverture des données. Et effectivement, Légifrance en est une très belle illustration. Et la transparence, notamment de la vie économique et financière, est effectivement une des missions prioritaires de la direction de l'information légale et administrative.
Oui, puis on se souvient tous, quand on était jeune, qu'il n'y avait pas encore Internet, enfin, fallait la chercher, l'information, et c'était pas facile à trouver. Et d'ailleurs, c'est en 1947, vous nous l'avez dit, que la documentation française dépend désormais non plus de l'information gouvernementale, mais du secrétariat général du gouvernement. Et c'est en 1947 aussi que René Lebas interpelle, messieurs les journalistes.
On lit dans les journaux, les bandits sont dans la cité, mais jamais dans les journaux on ne parle des gens bien sages qui font du bien sans publicité. On lit dans les journaux, il l'aimait trop, il l'a tué, mais jamais dans les journaux on ne parle des bons ménages qui s'aiment bien sans se tuer. Allons, allons, messieurs les journalistes, pourquoi faut-il que vous soyez si tristes? N'y a-t-il pas autre chose dans la vie pour qui sait regarder que des spectacles moroses dont il convient de se garder? N'y a-t-il pas du soleil sur chaque maison pour qui sait regarder et toujours une raison de sourire et d'aimer? Ne me dites pas non! On lit dans les journaux, mort affreuse d'un assassin, mais jamais dans les journaux on ne lit, dans telle pouponnière, 30 nouveau-nés se portent bien. On lit dans les journaux, monsieur Mattel est invendu, mais jamais dans les journaux on ne parle des gens honnêtes, on pourrait croire qu'il n'y en a plus. Allons, allons, messieurs, soyons sincères, il ne faut pas non plus qu'on exagère. N'y a-t-il pas autre chose dans la vie pour qui sait regarder que des spectacles moroses dont il convient de se garder? On devrait faire, je propose, des journaux dans un genre inédit où l'on dirait que les choses, les belles choses qui font aimer la vie, les bonnes nouvelles, les gens de cœur, messieurs les journalistes, apprenez-nous le bonheur.
René Lebas, messieurs les journalistes dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Sam Bakias et Laurence Millet, avec à la technique Jérémy Kaufmann. Et aujourd'hui, nous fêtons l'histoire de la documentation française née en 1945. Julien Vinocq, quelle est l'ambition première? Ou pour le demander autrement, à qui est destinée la documentation française au moment où elle est créée et où elle se développe?
Alors au départ, elle est essentiellement destinée aux décideurs, aux parlementaires, aux membres du gouvernement, car il s'agit vraiment d'avoir une information fiable, qui ne soit pas entachée de parti pris, et il s'agit pour cela, vraiment de constituer une équipe assez importante d'analyse rédacteurs qui ne vont pas se contenter d'accumuler, je dirais, des documentations sur des étagères, mais qui vont vraiment réaliser des dossiers constamment remis à jour et qui soient disponibles immédiatement sur tous les sujets d'actualité économique, sociale, internationale. Donc ça veut dire qu'il faut recruter du personnel compétent pour cela. Du reste, on va créer un concours en 1953 pour recruter du personnel qualifié, un concours d'analyse rédacteur qui va être créé en 53, qui sera en place pendant une bonne quarantaine d'années, voire plus, jusqu'au début des années 2000, ce concours existera. Et donc il y a vraiment au départ un public cible, c'est celui des décideurs. Progressivement, on va dire que le public va s'élargir, c'est-à-dire que d'abord on va établir un comptoir de vente, donc les productions, les publications vont être mises à la disposition du public, il va pouvoir les acheter, et puis on va constituer un vrai centre de documentation, une bibliothèque qui va accueillir un public plus élargi, notamment les étudiants. Ça c'est une chose, et l'autre direction, l'autre voie d'élargissement du public, c'est le monde de l'éducation. Parce que Crémieux Briac a vraiment à cœur de vulgariser déjà les productions, et il est en lien direct avec Gustave Monod, qui est le directeur de l'enseignement scolaire entre 45 et 51. Et l'idée vraiment d'alimenter aussi les CDI, les centres de documentation et d'information qui sont créés à ce moment-là, et de donner aux professeurs de la matière pour faire leurs cours, grâce notamment à la documentation photographique, mais aussi au cahier français, à tout un ensemble de publications. Donc il y a progressivement comme ça un élargissement du public. On passe des décideurs, et puis le grand public sera concerné assez rapidement dans les années 50.
Jean-Louis Crémieux Briac.
Cette documentation française, qu'il faut le dire, ne s'adresse pas qu'aux hommes politiques, comme on a tendance à le croire de temps en temps.
Oserais-je dire, j'espère bien que non. Le citoyen, ça compte, et l'usager et les enseignants sont pour nous des clients privilégiés, considérables, nombreux.
Vous êtes un peu l'homme de l'instruction civique, monsieur Crémieux-Briac.
Mais ça me plaît assez. Au sens large, ce serait un beau titre. Oui, je veux bien être documentaliste, et puis instruction civique, et puis maison de la culture, tout à la fois.
Comment se fait-il que cette documentation française se retrouve dans un festival du livre?
Eh bien, parce que la documentation française est devenue un très grand éditeur d'État, le plus grand éditeur d'État d'Europe occidentale. Car la documentation d'État et tout ce qui s'accumule dans les dossiers et les mémoires de l'État, c'est pas pour y dormir, faut le mettre à la disposition des autres, des responsables, des relais de l'opinion, et puis des citoyens et des usagers.
Est-ce qu'on vous achète assez?
Jamais assez, dirait un commerçant.
Il y a beaucoup de sourires, beaucoup de gourmandises dans la voix de Jean-Louis Crémieux-Briac. Nous étions en 1973 et lui était au micro d'Yves Mourouzi. Sabine Janssen, dans l'idée de proposer autant d'informations, il n'est pas nécessaire ici de réfléchir au journalisme, au sens où tous ces gens qui écrivent, vous êtes professeur à côté. C'est aussi ça, un lien qui est fait avec la recherche, avec l'université par la documentation française.
Oui, absolument. Il y a le désir vraiment de transmettre. La notion de transmission est très importante et on entend qu'elle l'est pour Jean-Louis Crémieux-Briac. Et avec l'idée que rappelait Julien, d'une information qu'on va transmettre qui doit être irréprochable, qui doit être nourrie au sein de la recherche, mais qui en même temps, je dirais, a vocation à diffuser. C'est aussi, on en reparlera, mais l'état d'esprit qui préside pour questions internationales. C'est-à-dire, il s'agit vraiment d'avoir un contenu qui est solide sur le plan académique, solide sur le plan de la recherche, mais qui va être diffusé, alors peut-être non pas pour lire sur la plage, encore que, mais avec, je dirais, un format, une présentation qui soit agréable, voire amusante. Hein. On a même maintenant un peu de BD, on met un peu de BD dans nos numéros de questions internationales. Et donc, cette idée, elle est d'emblée là. Hein. C'est l'idée qu'on doit avoir de l'iconographie, de l'image, du schéma. La documentation française a fait très tôt des choses très commodes, justement, sur le cheminement de la loi, l'idée qu'il fallait avoir du visuel. Et pas simplement de l'écrit. Donc cette notion de contenu, je dirais, pédagogique, sans être rébarbatif, est tout à fait fondamentale dans la matrice, disons, éditoriale de la documentation française.
Ah oui, ça par le passé et aujourd'hui encore. Hein, Lucile Joss, là j'ai sous les yeux quelques ouvrages publiés par la documentation française, mais ce sont des ouvrages qui font un peu moins même qu'un que sais-je. Hein, c'est une centaine de pages là par la documentation française. Jeunes et citoyens, le guide de mes premières démarches, tous influencés par les réseaux sociaux, l'océan en 30 questions, droit constitutionnel pour lire à la plage, parfait, les finances publiques au concours, parce qu'il y a là aussi la destination des étudiants. Non mais pour jeunes et citoyens, on voit bien qu'il y a toute une démarche qui est faite. Sabine Janssen évoquait la transmission pour toucher le plus grand nombre.
Alors peut-être juste pour redire, aujourd'hui nous avons donc deux revues, hein, Cahier français et Questions internationales, et trois collections en compte propre, donc Doc en poche, L'océan en 30 questions par exemple, est un exemplaire de cette collection, Découverte de la vie publique et Formation administration concours, qui a été créée en 1990 et qui vient de changer de titre pour s'appeler Concours administratif. Donc ces collections, nous avons une programmation comme un éditeur, hein, donc qui est annuelle, et qui vise effectivement à s'adresser à la fois aux citoyens, aux fonctionnaires et agents publics, et puis aux professeurs et aux étudiants. Et nous développons de plus en plus des ouvrages qui sont destinés à faire de l'information administrative, mais en format papier. Parce que c'est vrai que l'information administrative, elle est beaucoup en ligne, hein, le site Service Public en est un bon exemple, mais on se rend compte de plus en plus aujourd'hui qu'il y a encore une place pour le format papier dans ce domaine-là. On n'est pas les seuls à s'en rendre compte. Les acteurs de l'inclusion sociale s'en rendent également compte, parce que le format papier donne une forme de maîtrise sur la connaissance dont on doit disposer. Et donc, Jeunes et Citoyens est un produit dont on est extrêmement fiers, qui est un produit papier, édité à la documentation française, évidemment, et qui utilise des contenus de nos différents sites web, donc services publics, et puis aussi le site viepublic.fr. Et il y a une complémentarité entre ce qu'on appelle le print et le web, puisque vous avez des petits QR codes que vous pouvez scanner, et ça vous donne accès à des contenus qui figurent sur nos sites web. Et l'intérêt, c'est assez simple, c'est que ça nous permet de combiner un petit peu le meilleur des deux mondes, puisque le web permet une actualisation en continu des contenus, et le papier donne cette impression de maîtrise. Et je pense que c'est important dans une société de l'information. Vous évoquiez tout à l'heure le fait que on est dans un contexte informationnel qui n'est pas tout à fait celui de 1945, puisqu'on est plutôt dans ce qu'on qualifie parfois d'infobésité, de fatigue informationnelle. Il y a beaucoup d'informations, parce que le web donne cette impression d'infini, alors que pour être en maîtrise, notamment d'un moment de sa vie un petit peu complexe, pour jeunes et citoyens, c'est globalement l'entrée dans la vie active, c'est l'entrée dans la vie de citoyen. Quand vous êtes à ce genre de moment de vie, avoir un ouvrage qui est fini et qui vous dit, voilà, là, il y a tout ce que tu dois savoir, et ben ça rassure. Et dans le monde d'aujourd'hui, pas Sabine Janssen qui dira le contraire, être rassuré, c'est important, et être rassuré par l'information, c'est un petit peu notre mission.
Et pour moins de 5 euros, hein, je le dis, parce que pour jeunes et citoyens, non mais moi je retiens qu'on peut être rassuré, pour moins de 5 euros, avec tout dans la main, c'est plutôt pas mal. Et dans l'histoire des cahiers français, Julien Vinocq, dont vous êtes le responsable d'édition, on a aussi une évolution évidente, vous nous l'avez dit, février 1945, la naissance des cahiers français. Mmh. Aujourd'hui, le dernier numéro qui vient de paraître, c'est comment les entreprises se réinventent. Mais quelle évolution ? Parce que les objectifs sont différents, ils ont changé selon les contextes qui ont évolué.
Oui, alors les objectifs sont différents, il y a en même temps une certaine continuité, parce que c'est toujours, la mission de Cahiers français, c'est toujours essayer de, je dirais, sur les grandes questions politiques, économiques, sociales, de présenter des dossiers à la fois complets, clairs, dans une tonalité, je dirais, impartial, hein, parce qu'il n'y a pas de militantisme, il n'y a pas de, on ne défend pas des thèses, on essaye de présenter de manière sobre et impartiale l'état des connaissances sur ces sujets-là. Et puis avec, alors ce qui a changé de manière assez importante, c'est le tournant des années 70. Ça vaut pour Cahiers Français comme pour les autres publications. Pourquoi ? Parce que on a accepté l'idée qu'il puisse y avoir un pluralisme au sein de la documentation française. Auparavant, je dirais pas que c'était pas la voix de la France, pas du tout. Mais il n'y avait pas forcément, sur des sujets controversés, un contradicteur A en face d'un contradicteur B qui échange, qui ne sont pas d'accord. Bon. Et à partir de on va dire du ministère Chamond-Delmas, au lendemain de 1968, quand du reste Crémieux-Briac prend la direction de la documentation française en 69, là vraiment va s'instaurer une forme de pluralisme qui est reconnu, c'est-à-dire que sur les sujets qui peuvent être controversés, sujets de société, ça peut être l'avortement, ça peut être je ne sais pas, la délinquance, mille et un sujets, il va y avoir des voix qui sont divergentes, qui sont présentées au sein d'un même numéro. Là, c'est un changement assez important. Et nous sommes aujourd'hui encore un peu dans la continuité de cela, puisqu'on essaye, autant que faire se peut, de présenter sur tous les sujets que l'on traite, eh bien, les avis qui peuvent parfois être divergents sur telle ou telle question.
Parce qu'on voit bien cette évolution qu'il y a dans les objectifs divers de la documentation française, avec une origine destinée plutôt aux gens qu'on a longtemps appelés les décideurs, hein, c'est comme ça qu'on disait, les gens importants. Et puis, non, c'est le plus grand nombre, les enseignants, enseignantes, tous les citoyens, citoyennes qui veulent s'informer. Sabine Janssen, c'est vraiment cette volonté-là, je reprends, et c'est quand même pour questions internationales quelque chose qui est une référence, c'est les clés du monde contemporain.
Oui, ce qui me paraît aussi important, c'est que c'est pas la voix de la France. Alors, ça l'a été dans un certain contexte politique, ça ne l'est plus. Mais c'est important de dire que c'est une voix française. Mais une voix française qui va s'exprimer dans la diversité des opinions. C'est aussi ce qu'on s'efforce de faire dans Questions internationales. Nous avons des auteurs divers et variés qui n'ont pas tous les mêmes opinions, même sur, ils peuvent interpréter différemment certains faits. Mais on s'efforce toujours d'équilibrer les regards. Notre mission, c'est celle-là. C'est-à-dire, en quelque sorte, de mettre sur la table tous les avis et, si je puis dire, chacun ensuite, en croisant ces différents regards. C'est à partir de ce croisement, c'est au fond aussi ce que fait, vous le savez, l'historien, c'est ces regards croisés qui vont permettre de faire émerger, je dirais, la vérité, ou en tout cas ce qui s'approche le plus de la vérité, si on veut pas être trop orgueilleux et si on veut rester modeste.
Avec des sujets qui, ne serait-ce que par le titre, donnent juste envie d'ouvrir la revue. Hein. Le passé kidnappé, point d'interrogation, le passé kidnappé, histoire et mémoire, au pluriel ou au singulier dans les relations internationales. Mais formidable de voir comment aujourd'hui l'utilisation de l'histoire se retrouve dans tous les discours à l'international et dans des contextes très particuliers. On ne peut pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, mais ça a toujours été comme ça. Mais aujourd'hui, c'est flagrant, que ce soit en Ukraine, que ce soit à Gaza, sans avoir les éléments historiques.
C'est vraiment l'éléphant dans la pièce, l'histoire. Parce que en réalité, on a eu quand même pendant toute la période de la guerre froide, une espèce de domination du prêt-à-penser idéologique, hein, des grandes idéologies. Et c'est vrai qu'à partir du moment où ces grandes idéologies se sont effondrées, on a un retour de la géographie, de l'histoire, de la géopolitique. Et on a vraiment une utilisation, on peut dire massive, de l'histoire par les différents pouvoirs. Bon, bien sûr, commençons par Vladimir Poutine, c'est très évident, même dans la façon dont il justifie l'agression contre l'Ukraine, hein, dénazifier le pays, mais c'est aussi vrai dans la façon dont Donald Trump envisage le retour à l'âge d'or, dont il va s'inspirer de ses prédécesseurs, ou encore des, je dirais, positions extrémistes, aussi bien du Hamas que de certaines franges, hein, de l'extrême droite israélienne. C'est toujours l'appel à un passé, alors plus ou moins mythifié, bien sûr, mais on cherche quand même toujours dans l'histoire la légitimation de ces actes présents. Et on ne peut pas comprendre le conflit israélo-palestinien si on ne fait pas d'histoire, si on ne dit pas que c'est une guerre de 50 ans. C'est une façon aussi de refroidir l'objet. Et on ne peut pas comprendre non plus le problème, par exemple, de la politique étrangère allemande si on ne fait pas appel à l'histoire. C'est fondamental. Si on réfléchit, par exemple, à l'évolution des relations entre l'Allemagne et Israël, c'est fondamental de connaître l'histoire. Si on ne la connaît pas, on avance à l'aveugle.
Et puis ça vaut pour les questions internationales, et je reprends le titre de la revue, mais ça vaut aussi pour nous, c'est-à-dire savoir identifier des éléments de langage qui font référence à l'histoire, pour au moins les identifier, je dis pas les critiquer, mais au moins être éveillé, ça c'est quelque chose qui transcende l'ensemble des publications, c'est en ça, on est dans le cours de l'histoire sur France Culture, et puis, bon, historien, historienne, vous êtes avec nous aujourd'hui, l'histoire est partout, ça se suinte, hein, on voit dans la documentation française. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a avec la documentation photographique quelque chose de référence pour les collèges, les lycées, on l'a tous croisé.
Oui, tout à fait. Alors cette histoire, elle a été plus ou moins présente dans les productions de la maison, mais elle reste présente encore aujourd'hui, et y compris pour le compte d'un certain nombre d'administrations qui ont leur propre comité d'histoire. C'est le cas de la Cour des comptes, c'est le cas de la Cour de cassation, c'est le cas du Conseil d'État. Chacun publie et c'est le cas aussi pour ce qui a succédé à l'ENA, à l'Institut national du service public. Il y a vraiment des comités d'histoire qui ont à cœur de faire leur histoire, l'histoire de leur institution. Alors ça se renouvelle beaucoup, toutes sortes de sujets sont évoqués. Et nous avons parmi nos missions la tâche d'éditer ces ouvrages qui sont réalisés par les comités d'histoire des différentes administrations et institutions de la République.
C'est une collection particulière ou...
Alors là, c'est une série en fait de la collection Doc en poche.
Alors Doc en poche, c'est voilà. Jean-Luc Rémieux-Briac, c'est votre ouvrage Julien Vinocq avec une préface d'Olivier Vivorca.
C'est ça. Et alors dans cette série là, nous avons effectivement des ouvrages historiques. Nous sommes par exemple, nous avons réalisé des compilations de textes qui concernent des sujets aussi essentiels que par exemple l'éducation nationale. Un ouvrage qui avait été dirigé par Antoine Prot et qui avait comme ambition de présenter l'évolution de la politique de l'éducation nationale depuis la Troisième République avec un recueil de textes assez magistral, ça faisait 500 pages au moins, et on a fait comme ça tout un ensemble de séries d'ouvrages historiques sur des questions sociales, économiques, voilà. Donc l'histoire compte évidemment dans les publications de la documentation française encore aujourd'hui, oui.
C'est d'ailleurs ce grand contraste qu'il y a dans la documentation française, et c'est jouissif à évoquer, parce que des réflexions accessible mais pointu, et puis des choses très concrètes, parce que les gens sont en demande aussi d'informations concrètes.
Je fais des études actuellement, et ce sont des cours organisés par l'assistance publique pour devenir assistante direction.
Et vous trouvez à la documentation française une information vous ne pourriez pas trouver ailleurs ?
Certainement, oui. D'ailleurs, on nous a indiqué des documents que l'on peut trouver ici. Par exemple, sur le 7e plan, sur les rapports de santé, la réforme hospitalière, etc.
Bah, disons, ça fait 4 ans que je viens là pour mes études. Je suis étudiant en droit rural et économie agricole, donc je viens uniquement pour le domaine qui m'intéresse. Pour l'instant, c'est la viticulture qui m'intéresse. Non, parce que je prépare un mémoire de fin d'études sur la viticulture.
Je suis prof aux États-Unis, à New York. Enfin. J'étais dans un musée, lequel je ne me souviens plus. Et puis, j'ai noté qu'il y avait un tel établissement et je suis venu et je suis ravi depuis. Enfin, ça me sert beaucoup, les diapositives et puis les petits dossiers comme ça. Je les enseignais la langue française.
Voilà, la librairie, la salle de lecture de la documentation française en 1978. Ah ben oui, c'est pas fou, mais c'est normal, la vie c'est pas toujours fou non plus. Non, mais il y a besoin d'informations. Est-ce que, d'ailleurs, il y a toujours un lieu, Lucille Joss, pour la documentation française ?
Alors, effectivement, là, je pense que les personnes interviewées étaient à la librairie qui était située quai Voltaire, puisque la documentation française, pendant longtemps, ça a été aussi ce lieu qui était installé à l'hôtel Mailly et qui comportait plusieurs bâtiments, et notamment la librairie sur le quai, et puis derrière des salles, le salon doré, le salon boisé, il y avait le bureau du directeur, et puis il y avait le centre de documentation. Et par ailleurs, les ateliers étaient à Aubervilliers. Donc c'est vrai que cette double implantation a beaucoup structuré l'histoire et puis la mémoire des agents encore aujourd'hui. Alors, avec la création de la DILA et le rapprochement avec les journaux officiels, la librairie a fermé, donc il n'y a plus de lieu. Mais en revanche, nous avons un site qui est le site Vie Publique sur lequel vous pouvez trouver le catalogue de la documentation française. Donc, à la fois nos ouvrages en compte propre et les ouvrages que nous éditons pour le compte des administrations, ce qui est une mission importante hein, et qui a pris de plus en plus de place depuis les années 70. Et puis, par ailleurs, nous essayons d'être proches de nos lecteurs le plus possible par des enquêtes. On fait des petits podcasts aussi qui s'appellent les 2 minutes citoyennes. Donc voilà, on essaye de garder cette proximité, mais non, il n'y a plus de lieu physique. C'est lié aussi à l'évolution du marché.
La DILA, c'est la Direction de l'information légale et administrative. Sabine Janssen, quels sont les défis contemporains pour la documentation française, cette vieille dame? Alors vous, vous êtes co-rédactrice de Questions internationales qui a 20 ans, mais les défis sont là aussi.
Oui, alors peut-être un mot sur le contexte de naissance de Questions internationales, parce que en 2003, donc la documentation française a l'idée de créer cette revue. C'est vrai qu'en matière de relations internationales, il n'y a pas grand-chose. Il y a des choses qui sont grand public ou qui relèvent de la presse. Il y a le Monde diplomatique qui est là depuis 1954. Il y a Critique internationale qui est édité par le CERI, mais alors qui est quand même vraiment très très pointu. Et puis on voit apparaître, c'est pas un hasard, hein, justement à la fin de cette période des années 90, on voit apparaître Alternative internationale, qui est la petite sœur, si je puis dire, d'Alternative économique, hein, qui est cofondée par Télérama et Alternative économique. On voit donc naître aussi Courrier international un petit peu plus tôt, avec, donc, si je puis dire, l'expression la même de l'entrée dans la mondialisation. C'est-à-dire que c'est vraiment les années 90 qui constituent un peu un moment de bascule et qui font qu'il y a de plus en plus de gens qui cherchent à s'informer sur les relations internationales. Pour les plus anciens d'entre nous, on se souvient qu'à part Le Monde, il n'y avait pas énormément de pages internationales dans la presse française. C'était même assez flagrant. Et donc, là, on voit que les choses changent et qu'à partir donc du début des années 2000, la documentation française se dit il faut créer une revue généraliste de relations internationales. Alors, il y avait des revues spécialisées, plusieurs revues assez pointues par aire régionale, un peu sur le modèle du découpage de la HESS, avec Asie plurielle, problèmes d'Amérique latine, Afrique contemporaine, Maghreb Machrek, hein, qui existe toujours. Mais disons que l'idée, là, c'est faut vraiment rendre hommage à la DILA, et en particulier à la directrice qui était Sophie Moati à l'époque, qui a eu l'idée de créer une revue généraliste qui puise aux sources de la recherche, mais qui ne soit pas une revue de recherche, c'est pas une revue, je dirais, hyper pointue, académique. Elle a une vocation de vulgarisation. Donc, dans un contexte où on sort du moment unipolaire américain, où on rentre dans une phase un peu de chaos, de guerre contre le terrorisme, et c'est bien aussi cette origine-là, cette demande d'explication de la part du public. Hein. Et moi, je le vois même dans le cadre de mes cours, j'ai beaucoup de gens qui viennent pour simplement comprendre, pour se voir expliquer les choses, je dirais, dans une atmosphère qui est pas celle du café du commerce, où malgré tout, justement, on prend de la distance, on remonte dans l'histoire, on met en perspective, et c'est ça que Questions internationales a véritablement voulu faire. Et je crois que, bon, on y réussit pas mal, si j'en juge, par l'intérêt qui est porté à la revue. Alors, avec des défis, comme vous le dites, importants aujourd'hui, parce que on est, vous le disiez tout à l'heure, Lucille, on est dans une massification de l'information, on est plutôt dans du trop-plein. Donc, notre rôle à nous, historiens, c'est de trier, d'organiser, de refroidir, si je puis dire, hein, les objets brûlants. Quand on parle du conflit israélo-palestinien, qu'on demande à, par exemple, Jean-Pierre Filiu d'intervenir, c'est parce que précisément, on veut avoir une mise en perspective. On veut que les gens comprennent qu'on n'est pas brutalement face ex abrupto à un conflit entre Palestiniens et Israéliens, mais on a toute une histoire qui s'est nouée sur un siècle, et ça, il faut l'expliquer. Pareil pour le numéro sur l'Ukraine. On avait un vrai problème avec le numéro sur l'Ukraine, parce que comment faire un numéro sur l'Ukraine quand l'Ukraine est en guerre ? Et tout le, je dirais, le défi, ça a été justement de avoir des articles un peu perspectives économiques ou sociétaux, mais en même temps de rappeler l'histoire, rappeler les relations complexes avec la Pologne, pas seulement avec la Russie de l'Ukraine, pour aussi comprendre quelle est la nature du soutien que la Pologne accorde à l'Ukraine aujourd'hui. Tout ça est très complexe et nous conduit à faire appel à l'histoire, mais aussi à penser la numérisation, c'est-à-dire la transmission aujourd'hui, c'est aussi passé par Internet.
Et oui, c'est ça, Lucille Joss.
Oui, peut-être pour rappeler le modèle qui a précédé Questions internationales, c'était un modèle assez original avec des centres de doc thématiques. Donc il y en avait un sur l'Europe de l'Est et les économies planifiées qui avait été créé en 1954. Il y en avait un sur l'Afrique contemporaine et effectivement un sur le Maghreb Mashrek. Puis ils ont été restructurés au fil du temps et les revues étaient adossées à ces centres de documentation. Ce qui nous permet de mettre l'accent sur ce métier de documentaliste, sur le rôle de la documentation. Bon, on voit avec la fermeture des centres de doc qu'avec l'arrivée d'Internet, c'est un métier qui a beaucoup évolué. Mais je pense qu'aujourd'hui, voilà, Sabine Janssen parlait de trier, d'organiser sur Internet. C'est en fait exactement le métier de documentaliste, qui est d'indexer, de faire des plans de classement en respectant des codes. Et aujourd'hui, en fait, ça rejoint assez fortement les métiers de data cruncher, data analyst, data scientist. Tout le métier de la donnée, c'est de trier, d'organiser, de créer des arborescences et d'indexer pour qu'ensuite, en se basant sur des données de référence, on puisse faire des liens entre différentes bases de données. Et ça, du coup, c'est d'ailleurs en train de révolutionner la manière de faire de l'histoire, puisque quand on a des bases de données sur longue période et qu'on peut faire se répondre les bases, on peut créer des choses absolument passionnantes. Et pour rendre tout ça possible, nous, je pense que notre métier de documentaliste, même si aujourd'hui il s'exprime sur Internet et par la mise à disposition des bases de données et le classement, qui est vraiment extrêmement important, je pense qu'il prend une actualité tout à fait nouvelle. Et c'est aussi ce qui me donne beaucoup d'espoir dans la capacité de la documentation française aujourd'hui, comme elle l'a fait par le passé, à surmonter les défis que constituent les innovations technologiques.
Oui, sur Vie publique, on retrouve un certain nombre d'articles, notamment de questions internationales. Je fais ce que dit Jean-Louis Cremieux-Briac, un peu de commerce, un peu de promotion. Mais il y a pas que ça. Et là, on a eu peut-être un peu de retard. On est maintenant sur Cairn. C'est très important.
Oui, ce site avec des articles scientifiques.
Voilà. Il faut vraiment, il faut qu'on prenne pleinement ce tournant. C'est fondamental si on veut justement avoir une visibilité et toucher les jeunes. On parlait des jeunes tout à l'heure, ce public qui va sur Internet d'abord, il commence par là.
Et oui, avec Julien Vinocq, ce défi en fait, mais qui est toujours le même, c'est donner de la complexité pour comprendre et en même temps rendre les choses simples dans le même temps. Et c'est pas facile, mais c'est le défi, rendre les choses accessibles et en même temps ne pas mettre de côté la complexité.
Tout à fait, c'est pas quelque chose de facile parce que il faut à la fois évidemment être crédible sur le plan de la qualité du contenu et c'est pour ça qu'on fait appel quand même majoritairement à des universitaires, à des experts. Enfin, je parle pour Cahiers Français, mais ça vaut aussi évidemment pour Questions internationales. On fait appel à des gens qui ont vraiment une connaissance indiscutable du sujet, mais il faut s'adresser à un public qui n'est pas celui des colloques, qui n'est pas celui hyper pointu des revues scientifiques à comité de lecture. Donc il y a un travail de vulgarisation, on va dire, qui n'est pas forcément évident, et de boulot rôle aussi de l'éditeur qui est là pour faciliter la lecture, clarifier, donner transformer des textes qui peuvent être parfois un petit peu arides et jargonnants en quelque chose de clair.
Et c'est le cas, c'est une réussite la documentation française. Alors on le redit à Questions internationales, le passé kidnappé, ou alors Cahiers français, comment les entreprises se réinventent. Et puis toutes ces publications diverses, les sites internet aussi de la documentation française, de Légifrance, ce petit ouvrage sur le droit constitutionnel en plus de 80 questions-réponses. Merci vivement à tous les trois d'être venus dans le cours de l'histoire nous présenter la documentation française. On a toujours besoin de revisiter cette histoire-là. Merci beaucoup à vous trois.
Merci.
La documentation française, on le sait bien, une source immense d'informations, de renseignements. Je te dis, t'en es sûr ?
Batista n'est sûr, mais certainement. Ben merci pour le renseignement. Batista n'est sûr, mais certainement. Ben merci pour le renseignement. Alors merci du renseignement.
Fernandel, bien sûr. Et voici maintenant le fil d'histoire, la chronique à retrouver chaque semaine dans le cours de l'histoire et en vous abonnant au podcast Le Fil Culture G sur les réseaux sociaux avec de la science, de la philo, etc. Et l'historien médiéviste Emanuele Arioli nous offre ce regard sur notre histoire. Aujourd'hui, une langue plus égalitaire que la nôtre, mais laquelle ?
Souvenez-vous, à l'école, on nous disait que dans la langue française, le masculin l'emporte, et que certains métiers n'ont pas de féminin. Mais pourquoi ? Et si je vous disais qu'au Moyen-Âge, le français était plus égalitaire qu'aujourd'hui ? Le français a été écrit à partir du 9e siècle. Jusqu'au 16e, il n'était pas encore normé. La langue de cette période, l'ancien français, puis le moyen français, avait encore une grande souplesse. Et surtout, à partir du 12e siècle, les textes médiévaux, littéraires, juridiques, comptables et administratifs, attestent nombre de formes féminines pour désigner métiers et fonctions. Chambrière, broderesse, mais aussi physicienne, femme exerçant la médecine, mairesse, féminin de mire, médecin, chevaleresse. Quant à autrice, il est très bien attesté au XVIe siècle. Ce système de suffixation pour le féminin s'est maintenu assez stable jusqu'à nous, mais avec certaines évolutions. Par exemple, le suffixe « s » et « res » a perdu sa vitalité. Dès la Renaissance, il peut être ressenti comme péjoratif. Rabelais invente par exemple des « revenderesses d'oignons » pour s'en moquer. Aujourd'hui, il ne subsiste que dans certains mots. On ne dit plus « broderesse », ni « miresse », ni « philosophesse », on évite « mairesse », mais on dit encore « enchanteresse » et « maîtresse ». Mais encore plus frappant, l'accord n'était pas strictement fixé. Plus souple, il pouvait se faire avec le nom le plus proche. Par exemple, les hommes et les femmes sont belles. Et alors, dans une tournure de style, le féminin pouvait l'emporter sur le masculin. En somme, dès le Moyen-Âge, le français possédait déjà les ressources grammaticales pour dire le monde au féminin, et attestait déjà quelques mots au féminin pour des fonctions ou métiers de prestige. Alors, que s'est-il passé ? À la Renaissance, les grammairiens commencent à fixer des règles. Puis, en 1635, Richelieu fonde l'Académie française, une institution à l'époque exclusivement masculine, pour réguler la langue. Rapidement, on décrète que le masculin est le plus noble. Et en 1767, l'académicien Bozet ajoute « c'est à cause de la supériorité du mâle sur la femelle ». Ce n'est plus de la grammaire, c'est de la domination masculine. Les féminins des métiers prestigieux disparaissent. Pas de problème pour dire bouchère ou couturière, mais autrice devient impossible. Et après ? Au XXe siècle, malgré les conquêtes sociales, la langue officielle résiste. Il faut attendre 1984 pour qu'une commission mise en place par la ministre Yvette Roudy relance la féminisation des noms de métiers. Puis, 2019, l'Académie française reconnaît enfin qu'il n'existe aucun obstacle de principe à ces féminins. Autrement dit, à faire ce qu'on faisait déjà au Moyen-Âge. Et aujourd'hui, les débats s'enflamment sur l'écriture inclusive. Entre-temps, la langue continue d'évoluer par l'usage. Elle se met à jour pour décrire notre monde. Et si pour féminiser la langue, on regardait vers le Moyen-Âge ? Car avec ses chevaleresses et ses miresses, l'important parfois sur le masculin, la vieille langue était parfois plus égalitaire que la nôtre. Comme quoi, l'avenir du français pourrait bien se trouver dans son passé.
Merci Emanuele Arioli, à retrouver sur les réseaux de France Culture, sur le site, évidemment, sur l'appli Radio France. Bien sûr, le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Jeanne Delecroix, Raphaël Laloum, Jeanne Copet, Solène Roy, Chloé Rouillon et Mayouen Guizhou. Émission à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.